Nous recevons en direct ce jeudi 11 mars 2010 Ronald Craig, auteur de Utopie américaine, expérience libertaire du 19e siècle à nos jours, paru en octobre 2009 aux éditions Agone. Autour de cette table sont réunis deux représentants du groupe Albert Camus, Jean-Marc, accompagné de Hervé. Il est donc temps de présenter Ronald Craig. Vous m'arrêtez si je dis faux. Sociologue anglo-français, historien du mouvement anarchiste, vous enseignez aussi la civilisation américaine à l'université Paul-Valéry de Montpellier III. Vous êtes l'auteur, entre autres, de « Histoire de l'anarchisme aux États-Unis » paru en 81, « Laboratoire de l'utopie, les communautés libertaires aux États-Unis » en 83, précurseur de « Utopie américaine, la raison de votre venue à Toulouse », « Sacco et Vanzetti » paru en 84 et réédité 20 ans plus tard, Terrorisme entre spectacle et sacré sur les événements du 11 septembre 2001, mais aussi L'imagination dérobée, paru en 2006. La liste n'est pas exhaustive. Outre votre participation à la presse libertaire et à la revue Réfraction, vous animez également sur le web, entre autres, une liste de discussions intitulée « Recherche sur l'anarchisme », dont on pourra donner l'adresse en fin d'émission. Au commencement était donc « Laboratoire de l'utopie », Les communautés libertaires aux États-Unis, paru en 83, en langue française.
Oui, on m'avait demandé d'écrire, comme j'avais déjà écrit sur l'anarchisme, Miguel Abensour, qui dirigeait la collection chez Payot, m'avait demandé d'écrire sur l'utopie, à propos de ces communautés, parce que bon, quand on écrit une thèse, surtout à l'époque où c'était des thèses d'État, moi je voulais travailler sur l'anarchisme. Et je pensais que comme il n'y avait pas grand-chose à l'époque sur l'anarchisme, si ce n'est un petit bouquin de 200 pages en anglais, je me suis dit, tu vas le délayer. Et quand je suis arrivé aux États-Unis pour travailler sur l'anarchisme, j'ai rencontré le grand spécialiste de la question qui s'appelait Paul Avrich. Et je lui dis, voilà, ben, alors il m'a dit, ah, vous voulez parler, vous allez écrire quelque chose sur l'anarchisme des Français aux États-Unis. Moi, je ne savais même pas qu'il y avait eu des Français anarchistes aux États-Unis. Je dis, oui, mais je vais écrire aussi sur tout le monde, tous les autres anarchistes. Alors il m'a dit, mais vous savez, moi, j'ai déjà écrit un peu sur, en manuscrit, sur l'anarchisme juif aux États-Unis, et j'ai plus d'un millier de pages. J'ai dit, ben écoutez, on pourra peut-être mettre nos notes en commun, ce qui lui a fait évidemment très peur. Et, enfin, on est resté quand même excellents amis. Et donc, j'ai écrit ma thèse, et ma thèse, elle a fait plus de 1800 pages, et elle s'arrête là où l'anarchisme vraiment commence, la grande période de l'anarchisme des années 1870-1880, avec Emma Goldman et compagnie, parce que, bon, déjà 1800 pages, ça faisait quand même beaucoup. Et en fait, bon, donc, voilà un peu, alors il me restait énormément de matériel et j'avais envie d'écrire quelque chose aussi sur ces groupes-là. Et il s'est trouvé que nous avions un ami commun qui m'a parlé de mes travaux à Miguel Abensour, et c'est un peu comme ça, il s'appelait Mercier Vega, Louis Mercier Vega. Et c'est comme ça que donc j'ai écrit ce livre sur le laboratoire de l'utopie qui a eu... je crois quand même un certain écho, parce que chaque fois que je rencontrais des philosophes, puisque c'est une collection de philosophie, puisque j'étais dans une collection très prestigieuse, puisqu'il y avait toute l'école de Francfort qui était là-dedans, Adorno et compagnie. Alors chaque fois que je rencontrais un philosophe, il me disait, ah oui, votre livre, je savais pas s'il avait lu, mais enfin, en tout cas, c'était un livre qui était assez prestigieux. Voilà un peu de petite histoire de laboratoire de l'utopie. Et donc, la raison pour laquelle ensuite je l'ai refait, c'est parce que, bon, il a été épuisé. Tous les ouvrages que j'ai écrits sont pratiquement, sauf l'un ou les deux ou trois derniers, pas encore. Ils se vendent lentement en général, mais ils se vendent jusqu'à épuisement, sans aucune pub. Et donc, il était épuisé. Payot avait une autre politique, donc il n'a pas réédité. J'ai donc contacté les éditions Agone, qui ont lu ça très consciencieusement, trois personnes différentes, sans se consulter pour voir si oui ou non elles allaient publier le livre. Et ils m'ont demandé, bon, de le mettre à jour, d'écrire une introduction, d'ajouter une conclusion, etc. Donc, je ne sais pas exactement, mais il a peut-être deux fois plus de pages maintenant que l'édition antérieure. Et surtout, bon, il est actualisé, c'est-à-dire que je parle aussi du milieu actuel.
Jusqu'au début des années 2000.
Jusqu'en 2010.
Jusqu'à maintenant.
Oui.
C'est décidément très utopique.
Oui. Ou 2009 peut-être, parce que bon, il est sorti en 2009, oui, donc d'accord. Il ne pouvait pas parler d'aujourd'hui.
Donc Ronald, une question qu'on a envie de te poser, l'utopie c'est quoi?
Alors je suis à contre-courant de tout ce qu'on dit sur l'utopie, parce qu'on a toujours présenté l'utopie, bon, on a été influencé évidemment par le fameux livre de Thomas More sur l'utopie, et on a essayé de montrer que l'utopie c'était un produit de l'imagination humaine, un projet de société qu'on imaginait, et si possible un projet de société idéale. Puis il y a eu une grosse campagne des nouveaux philosophes en France, en particulier dans les années 1970 par là, pour dire mais l'utopie c'est absolument affreux, l'utopie c'est l'Union soviétique. Et donc à ce moment-là, bon, ils ont voulu montrer que l'utopie vécue était quelque chose d'épouvantable quand on voulait réaliser ces rêves imaginaires. On pourrait leur répondre que le capitalisme et l'idée du marché libre, c'est aussi une utopie, n'est-ce pas, et qu'il y a aussi ces côtés bien catastrophiques comme on le voit. Mais je ne pense pas du tout, je crois que c'est une illusion et que c'est une vision anthropocentrique d'imaginer que l'utopie, elle est dans le cerveau et dans l'imagination humaine. Je crois que l'utopie, elle est dans le réel, elle est dans l'univers comme tel. C'est l'univers qui est utopique, c'est nos vies qui sont utopiques. Lorsque, au début de la création de la Terre, lorsque c'était qu'une boule de gaz, imaginez que là-dessus il y aurait quelques êtres qui existeraient, c'était de l'utopie. Lorsqu'il y avait de l'eau, imaginez qu'il y aurait de la vie, c'était de l'utopie. Lorsqu'il y a eu des poissons, pensez qu'un jour ça volerait dans les airs, c'était de l'utopie. Penser qu'ensuite un univers sans aucune idée, sans aucune pensée créerait de la pensée, c'était quand même aussi de l'utopie. Pour moi, l'utopie, en réalité, c'est dans l'univers, mais nous avons du mal à accepter une telle idée, ça nous effraie beaucoup. Et donc, on imagine des dieux, des divinités ou des tas de choses comme ça, et on se met l'utopie dans une vision anthropocentrique, on imagine que c'est l'homme qui imagine des choses. Alors qu'en réalité, pour moi, l'utopie, elle a deux aspects très importants. L'un, c'est toujours de l'inattendu, et l'autre, c'est toujours dans le réel lui-même que cela se passe. Alors, il y a aussi, bien sûr, des récits utopiques, des imaginations utopiques, etc. Je ne nie pas tout cela, mais pour moi, c'est peut-être même moins passionnant que le réel, qui est beaucoup plus complexe et beaucoup plus riche.
Très bien, mais c'est pas nous qui dirons le contraire. Donc tu es d'accord avec les anarchistes lorsqu'ils imaginent une société égalitaire, une société libertaire. Aujourd'hui on nous dit c'est l'utopie, et donc c'est peut-être la société de demain,
hein. Ben, je ne sais pas quand est-ce que, parce que moi je ne pense pas en termes ni d'aujourd'hui, ni de demain, ni d'hier. Moi je pense en termes du présent. C'est le moment présent qui me semble important, puisque c'est celui que je vis en ce moment. Il est rempli du passé, bien sûr. Il est rempli de l'avenir aussi, puisque nous ne savons pas ce qu'il en sortira. Donc, pour moi, le problème est de vivre le présent à fond. Et ce que je sais, c'est que dans le présent, tout être humain a des possibilités anarchistes et des possibilités fascistes. Et nous avons en nous toutes les possibilités. Nous avons un nombre infini de possibilités que nous ne savons pas utiliser parce que nous vivons dans des routines. Et tout le problème de nos sociétés, c'est qu'elles sont prises dans des engrenages, et nos sociétés sont dans des engrenages encore plus serrés que les sociétés d'autrefois, qui étaient plus libres de ce point de vue-là. Nous sommes des gens terriblement formatés aujourd'hui. Nous avons l'habitude maintenant de parler avec des robots et des ordinateurs plus qu'avec des êtres humains. Et de ce coup-là, nous vivons complètement décalés par rapport au réel et par rapport à la vie. Bon, je prendrai l'exemple tout bête et tout simple, mais les gens, par exemple, d'un certain âge, disons 70 ans ou 80 ans, ont beaucoup de mal à comprendre la musique des jeunes, parce qu'ils sont encore dans leur culture à eux, avec leur routine à eux et leur mode de vie à eux. Et la société est comme ça aussi. Elle a du mal à comprendre et elle fonctionne toujours sur cette même routine. Elle sait qu'elle est en train de se casser la figure en ce moment et qu'elle va vers la catastrophe écologique, mais elle ne fera rien pour l'empêcher. Elle continuera, elle tiendra des discours magnifiques pour faire croire que, mais elle est prise dans ses routines, elle est prisonnière de tous ces engrenages qui sont des engrenages bureaucratiques, financiers, etc. Moi, je pense à un autre exemple que je pourrais donner, c'est celui de quelqu'un qui est milliardaire. Moi, je ne sais pas, mais moi, si j'étais milliardaire, j'aurais pas besoin d'avoir un deuxième milliard. Un seul milliard me suffirait très largement pour tous mes besoins. Et si j'avais 200 milliards, je vois pas pourquoi je devrais chercher à en avoir 201. Il faut être fou. Je pense que c'est ça, n'est-ce pas, le problème de l'humanité, c'est qu'elle est entrée dans des engrenages et qu'elle ne sait plus du tout voir l'inattendu et l'utopie du réel. Mais le réel est beaucoup plus complexe que nos petits cerveaux peuvent l'imaginer et il faut toujours nous attendre à des choses, à des événements inattendus parce que nous sommes dans un univers inattendu.
Alors, Ronald, pour revenir à ton livre Utopie américaine, est-ce qu'il y a un lien entre le mouvement utopiste, l'utopie et l'histoire de l'anarchisme aux États-Unis?
Oui, parce que bon, il faut dire une première chose, n'est-ce pas? C'est que les États-Unis sont nés un peu avec l'idée qu'on pouvait s'échapper des empires, des sociétés plus ou moins totalitaires, la féodale et autres qu'il y avait en Europe, et qu'on allait se libérer en allant aux États-Unis. Donc ça a été un peu, les États-Unis ont été un peu le pays qu'on a vu comme l'avenir de l'humanité, des nouvelles promesses, et comme, pour ceux qui étaient religieux, c'était la Jérusalem nouvelle. Donc c'était le pays où tout était possible, et donc qui était ouvert à cette idée de l'utopie. Et en fait, je pense que encore aujourd'hui, il y a cet esprit de se dire que tout est possible. Je me rappelle une expérience qui m'avait beaucoup étonné. Une fois, je rencontrais un grand spécialiste de sociologie et je discutais avec lui et je lui donnais un certain nombre d'idées, n'est-ce pas? Et je voulais avoir un peu son avis sur la question. Il me dit, c'est intéressant, maintenant il faut le mettre en pratique et voir si ça marche ou pas. Alors qu'en France, ce qui se passe plutôt, c'est qu'on discute l'idée, on dit non, ça peut pas marcher et on la rejette. On ne sait pas mettre nos idées en expérience et voir si en fait elles fonctionnent ou pas et puis peut-être on peut les corriger si ça ne marche pas et ainsi de suite. Nous sommes très cartésiens, et alors qu'aux États-Unis, ils sont beaucoup plus pragmatiques. Et l'anarchisme aux États-Unis est un anarchisme extrêmement pragmatique, qui est une grande ouverture d'esprit à énormément de choses. Et j'ai eu une expérience aussi très intéressante à ce point de vue-là, lorsque j'ai enseigné au Texas. J'ai eu un étudiant qui a voulu faire une enquête pour savoir un petit peu s'il y avait une mentalité anarchisante au Texas. Et il a fait un questionnaire avec un certain nombre de thèmes anarchistes et il a posé ces questions-là par téléphone à un certain nombre de gens. Et il a été très très surpris que 90 ou 95% des gens répondaient de manière anarchiste. Et à la fin, alors il disait, mais est-ce que vous êtes anarchiste? Et les gens répondaient, quoi? Qu'est-ce que c'est ça? Et raccrochaient le téléphone de colère. N'est-ce pas? Je crois qu'il y a effectivement un milieu beaucoup plus favorable aux idées libertaires aux États-Unis qu'il n'y en a en France, pour la raison qu'en France, on est encore extrêmement dominé par l'État centralisateur, qui a évidemment récupéré tout l'argent et tous les biens de tout le monde, et donc on a besoin de lui, on ne peut pas s'en passer. Dès qu'il y a le moindre problème, on fait appel à l'État. On l'attrape, on le gronde, on le critique, mais c'est toujours lui qui est la cible, alors qu'aux États-Unis, ce qu'on fait plutôt, on crée des mutuelles, on crée des associations d'entraide, etc. Par exemple, toujours au Texas, lorsque le sida est apparu, eh bien, les médecins n'osaient plus toucher les malades, ils avaient peur de la contagion. Eh bien, les homosexuels se sont organisés eux-mêmes. Ils se sont autogérés, ils ont créé leurs propres hôpitaux avec leurs propres médecins. Voilà un exemple typique de courant libertaire au sens large du terme, de gens qui s'autogèrent. Ça, c'est une grande chose qui manque en France, où l'on est souvent beaucoup trop uniquement dans les discours.
On se retrouve dans 5 petites minutes.
No.
Poursuivons notre entretien avec Ronald Craig et Jean-Marc Hervé du groupe Athénée Libertaire Albert Camus.
De la coordination des groupes anarchistes, pour être un tout petit peu plus précis. Donc Ronald, est-ce que tu peux dresser un panorama de l'anarchisme aux USA, de ses origines à aujourd'hui ?
Oui, évidemment, bon, en simplifiant énormément de choses, on peut dire qu'au départ déjà, la première forme d'implantation aux États-Unis dans un certain nombre de régions par les colons s'est fait de manière relativement libertaire, c'est-à-dire que les gens se retrouvaient entre eux et s'organisaient pour avoir un certain terrain et avoir une ville. Alors évidemment, bon, dans beaucoup de cas, c'était des entreprises qui étaient très commerciales, d'hommes d'affaires, etc. Mais ce n'était pas le cas partout. Par exemple, il y a quand même toute la période de coloniale, de l'époque coloniale, des Quakers en Pennsylvanie, qui avait été fondée par un Quaker, qui pratiquait absolument la non-violence, qui ne voulait pas entendre parler de police. Lorsqu'il y avait des conflits avec les Indiens, ils allaient négocier avec eux. Ils essayaient de prendre les terres à des tarifs corrects et honnêtes. Et pendant très longtemps, ils refusaient de payer les impôts, etc. Et lorsqu'ensuite on a commencé, il y a évidemment bon, des émigrations qui venaient de différents pays, allemands, etc., et que donc l'État a commencé à se mettre en place, l'État de Pennsylvanie, les Quakers ont décidé qu'ils ne se présenteraient pas aux élections, et donc ils ont essayé de rester vraiment en dehors là-dessus, et il y a encore des courants Quakers aujourd'hui, qui par exemple fonctionnent énormément par décision, par consensus, sans aucune hiérarchie. Il faut rappeler que les Quakers, déjà, ils tutoyaient le roi, ce que le roi trouvait d'ailleurs assez drôle, n'est-ce pas, parce qu'ils considéraient qu'ils étaient les égaux du roi. Ils avaient donc une mentalité très égalitaire. Il y avait d'autres groupes religieux qui étaient aussi un peu de ce, dans ce style-là. Donc ça, c'est un peu l'époque coloniale. Et donc, il a donné cette idée quand même qu'il fallait s'organiser ensemble avec un certain esprit mutuel de collaboration. Alors, nous avons ensuite la première période de l'histoire des États-Unis, c'est-à-dire après la guerre d'indépendance. Il y a un courant révolutionnaire déiste qui se marque et qui dit on ne s'est pas battu pour avoir à nouveau des chefs au-dessus de nous. Il y a eu des révoltes, la fameuse Whiskey Rebellion, la rébellion du whisky, parce que pour justement marquer la présence de l'État, on a décidé de mettre un impôt sur le whisky. Et les paysans se sont révoltés là-dessus, n'est-ce pas, en disant il n'y a pas question. Donc ça a permis de mettre petit à petit l'État en place, et ainsi de suite. Donc il y a eu des mouvements comme cela, de rébellion. Et ensuite, il y a eu donc une troisième période, qui a été la protestation contre l'esclavage. Le mouvement anti-esclavagiste a pris des positions très varié évidemment, parce qu'il y avait différents courants. Il y avait les courants qui disaient « oui, mais il faut aller lentement, on peut pas faire ça du jour au lendemain, etc. » Et il y avait le courant qu'on appelle les abolitionnistes, qui disaient « il faut supprimer l'esclavage tout de suite et aujourd'hui. » Et donc, comme l'État soutenait l'esclavage, ils ont décidé qu'il fallait rompre aussi avec l'État. Et il y a eu des groupes extrêmement divers, par exemple ce qu'on appelait les « come-outers », qui étaient des gens qui allaient dans les églises et puis qui interrompaient les prédications du prédicateur en disant « comment vous, les églises, vous acceptez l'esclavage, etc. » Il y a eu des courants donc très très forts qui disaient « je veux faire sécession » et nous avons évidemment une grande figure qui n'était pas très célèbre à l'époque mais qui aujourd'hui est quand même très reconnue, c'est Henri David Thoreau, n'est-ce pas, qui a écrit des choses extrêmement intéressantes en disant que quand un gouvernement commet des actes absolument intolérables, la seule place de l'honnête homme, c'est d'être en prison. Et il a refusé de payer les impôts à cause de ça. Il s'est opposé aussi d'ailleurs à la guerre contre le Mexique. Donc il y a eu un courant abolitionniste qui était d'inspiration anarchiste avant le terme, si l'on veut. Et il y a eu également un courant d'anarchisme individualiste, non pas dans le sens de l'individualisme bourgeois et capitaliste tel qu'on le voit aujourd'hui, mais un individualisme américain qui, en fait, était aussi extrêmement dans l'action de collaboration mutuelle et ainsi de suite, et qui a créé aussi quelques communautés dont on parlera peut-être un peu aujourd'hui ou demain, ce qui montrait bien que c'est un individualisme communautaire. Mais l'idée principale de cet individualisme était que une heure de votre vie vaut une heure de la mienne. Si vous me donnez une heure de travail pour moi, il faut que je vous dois une heure de votre travail. Donc, c'était basé sur ce système-là. Et, ça a fonctionné d'ailleurs de manière assez intéressante. Et puis, nous avons ensuite l'industrialisation des États-Unis après la guerre la guerre civile. Et, à ce moment-là apparaît ces gens qui avaient lutté contre l'esclavage apparaissent encore aujourd'hui, mais ils sont vieux, ils sont âgés. Il y a une nouvelle génération qui vient et qui dit « nous sommes des abolitionnistes encore, mais nous voulons l'abolition de l'État ». Pour un certain nombre de raisons, alors il y a différents courants aussi là-dessus. Ce mouvement va marquer profondément le mouvement ouvrier qui commence à naître à l'époque, des groupes divers, surtout dans la côte est des États-Unis. Et puis, nous avons ensuite alors une autre période qui est alors la grande immigration qui va arriver d'Allemagne et des pays d'Europe centrale et de l'Est, et qui va évidemment constituer la classe ouvrière. Alors la classe ouvrière américaine dans les années 1870-1880, parce qu'on va par exemple dans des villes comme Chicago, il y a des métiers, où, par exemple tous les métiers du bois, l'ébénisterie, la menuiserie, etc. Si vous n'êtes pas allemand, vous ne pouvez pas trouver de travail, parce que tout est tenu par les syndicats allemands. Et donc nous avons un mouvement qui va devenir anarchisant, et les anarchistes vont occuper une place très importante dans le mouvement ouvrier. Par exemple à Chicago, dans les années 80, il y a deux grandes manifestations ouvrières, l'une qui est organisée par les anarchistes et l'autre qui est organisée par les catholiques et les Irlandais, n'est-ce pas? Parce que bon, pour lutter contre eux, l'Église catholique a essayé de mobiliser l'immigration irlandaise. Eh bien, les manifestations anarchistes, lorsqu'il y a les défilés dans les rues, c'est rien. En comparaison, les manifestations irlandaises, c'est rien à côté. Parce qu'il y a une foule énorme. Les manifestants anarchistes, c'est tout le monde est là, les hommes, les femmes, les enfants, la famille, etc. Et puis ça finit avec des pique-niques, des danses et tout le reste. C'est très important, c'est très impressionnant. Et tout cela va aboutir à la grand événement de Haymarket en 1886, n'est-ce pas? Une bombe qui éclate à l'occasion d'une réunion anarchiste en pleine rue. On accuse des anarchistes qui manifestement sont totalement innocents. Ils seront condamnés à mort et c'est l'origine du 1er mai. C'est un événement qui va beaucoup marquer aussi le mouvement, qui va créer beaucoup de gens vont être tellement choqués par cela qu'ils vont se convertir à l'anarchisme. On peut parler de conversion parce que c'est vraiment toute leur vie qui est transformée. Et parmi ceux-là, il y a deux grandes figures particulièrement importantes. Emma Goldman, qui est une juive new-yorkaise qui a émigré de Russie, et à Philadelphie, une autre femme qui s'appelle Volterine de Clare, qui elle aussi va tout d'un coup découvrir l'anarchisme. Alors qu'elle avait commencé par dire quelle horreur ces gens-là qui utilisent les bombes, etc., elle va découvrir et comprendre exactement, elles vont consacrer l'une et l'autre toute leur vie, elles vont parler à des milliers de personnes. Emma Goldman sera expulsée des États-Unis avec Alexander Berkman, qui était aussi à un moment donné son compagnon, et puis qui restera toujours son ami, et ils seront expulsés avec des centaines d'autres. Et donc, mais ça, c'est une très grande période de l'anarchisme aux États-Unis, qui va des années 1880 jusqu'à la Première Guerre mondiale. Moi, j'ai vu des journaux, par exemple, des quotidiens de Californie. Le San Francisco Chronicle, par exemple, en pleine guerre de 14-18, il met les titres de première page sont sur Alexander Berkman. C'est absolument étonnant. Il ne parle pas de la guerre mondiale, mais il parle d'Alexander Berkman qui est en train d'essayer de mobiliser des gens pour qu'ils n'aillent pas à la guerre, pour essayer de s'échapper, etc. N'est-ce pas? Bon, il va se faire attraper d'ailleurs à cause de ça et il sera arrêté, expulsé. Donc, je veux dire, ce sont des mouvements qui sont quand même d'une importance réelle et lorsqu'il y a beaucoup de conflits, enfin les conflits aux États-Unis sont toujours très profonds, ils vont marquer une empreinte, de leur empreinte de manière très profonde. Alors ils vont aussi évidemment envoyer des journaux en Europe. Par exemple, il y a Johann Most, qui est un Allemand, qui est un ancien député allemand, qui est passé à l'anarchisme et qui est aux États-Unis et qui écrit un journal en allemand pour les camarades allemands, pour qu'il est envoyé clandestinement via la Hollande jusqu'en Allemagne. Il y a par exemple aussi les communautés juives qui essayent de soutenir les communautés juives en Russie et qui aussi ont créé une croix noire anarchiste pour le secours mutuel, etc., et pour aider les révolutionnaires là-bas. Et puis alors il y a évidemment le mouvement des anarcho-syndicalistes, les IWW, qui est aussi quelque chose d'assez extraordinaire dans la mesure où il va toucher un nombre très 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 important de groupes sociaux, n'est-ce pas? Parce que bon, il y a eu des anarchistes indiens, je parle d'indiens de l'Inde, enfin originaires de l'Inde, aux États-Unis, Il y a eu des anarchistes français, il y a eu des anarchistes italiens, il y a eu des anarchistes allemands, il y a eu des anarchistes de toutes les nations possibles et imaginables. Les Slaves aussi ont été très très importants. Les Tchèques, enfin c'était la Bohème à l'époque, ont joué aussi des rôles importants et également dans le Nord, etc. Donc c'est un mouvement qui est en plein essor jusqu'à la guerre de 14-18. Et ensuite, il y a une grande crise qui va se passer lorsque il y a la révolution russe, parce que beaucoup, beaucoup d'anarchistes vont se rallier au communisme, n'est-ce pas? Ils vont voir en Russie le nouvel espoir de la classe ouvrière, donc ils vont quitter le mouvement anarchiste qui va être pratiquement dans les sous-bois jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, pratiquement. Il y a quelques grandes figures, mais peu connues. Et c'est plutôt à partir des années 1950 et 1960, il y a d'abord la Beat Generation, bon, qui n'est pas anarchiste, mais qui est quand même, va poser quand même un certain nombre de choses. Et puis ensuite, nous avons le mouvement hippie, et c'est là qu'un certain nombre d'idées libertaires vont sortir de genres très très variés, et qui va provoquer l'essor des idées libertaires aujourd'hui.
Thank you.
Donc, nous venons de brosser un peu un portrait de l'histoire de l'anarchisme aux États-Unis, donc à la fin du 19e siècle jusqu'aux années 60.
Oui,
jusqu'à la Beat Generation.
Voilà. Alors, aujourd'hui, faisons un grand saut pour arriver un peu à ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, il faut expliquer une chose qui me semble très importante, c'est que en France, on a beaucoup le culte de l'organisation, même si on ne sait pas s'organiser toujours très bien, et donc on est fidèle à une organisation. Aux États-Unis, c'est absolument pas le cas. Je sais que lorsque j'ai travaillé, par exemple, sur les anarchistes qui étaient dans la première internationale ouvrière, j'ai travaillé sur ceux qui se trouvaient à Madison, dans le Wisconsin. Et je me suis posé la question, mais qu'est-ce qui s'est passé quand la première internationale a disparu? Et ce que j'ai constaté, c'est que tous ces gens-là ont continué à être engagés, mais dans des choses très différentes, n'est-ce pas? Par exemple, il y avait une femme qui était très marquée par Fourier et qui s'est lancée dans une architecture fourieriste, féminine à la fois aussi, féministe, et d'autres qui se sont lancés dans d'autres activités. Autrement dit, ce qui, pour les Américains, est important, c'est d'être dans le mouvement social. C'est pas d'être avec une étiquette particulière, même s'ils se donnent des étiquettes et des identités. Ce n'est pas tellement l'organisation comme telle. Et moi, je sais que très souvent, lorsque je visitais des villes et je demandais, est-ce qu'il y a un groupe anarchiste ici, là, quand je rencontrais un anarchiste ou autre, il dit, ah oui, nous venons d'en commencer il y a 3 ans. N'est-ce pas? On n'a pas du tout des organisations qui datent de 100 ans ou de 50 ans, comme c'est le cas en Angleterre ou en France. Donc, ça fait que, bon, il n'y a pas de mémoire, c'est plutôt, on recrée de nouveau les choses et on est beaucoup plus ouvert à l'actualité. Donc, les courants libertaires actuels, on les trouve un peu dans des choses extrêmement différentes et diverses. Par exemple, il y a des libraires libertaires qui essayent de penser le problème d'ouvrir les livres aux gens, par exemple de leur donner des informations quand il y a des manifestations sur leurs droits et des choses comme ça. Donc des bibliothèques qui vont être ouvertes à des problèmes que habituellement les bibliothèques ne pensent pas toujours s'ouvrir. D'autres qui sont par exemple des documentalistes libertaires et qui vont travailler sur les sources des documents pour que les radios alternatives et les journaux alternatifs puissent donner des informations qui sont vérifiées et qui demandent évidemment donc une recherche, parce que nous vivons aujourd'hui à une époque où quand vous lisez le journal, vous ne savez pas qui a signé l'article, donc vous ne savez jamais exactement d'où vient cette information, qui l'a fabriquée et construite. Donc là, voilà un exemple. Bon, d'autres, beaucoup de libertaires aussi, sont dans divers courants écologiques. D'autres sont dans les infokiosques, dans les radios alternatives. Il y a par exemple aussi une grande radio, télévision, surtout radio qui est sur Internet et qu'on peut prendre, qui s'appelle Democracy Now, qui est extrêmement intéressante, qui interview, qui est quotidienne, n'est-ce pas? Enfin, qui interview beaucoup de gens très importants. Il y a le fameux site de Chomsky qui reçoit des dizaines de milliers de visiteurs par jour. Il y a énormément de courants extrêmement divers. Par exemple, il y a des groupes qui ont essayé de vivre sur les idées de Josiah Warren, c'est-à-dire le temps de travail. Par exemple, vous êtes étudiant et puis vous avez besoin d'un avocat parce que vous avez été attaqué par quelque chose. Alors vous faites du babysitting chez un avocat et il doit vous donner le même temps que vous lui avez donné. Donc il fonctionne sur la base du temps de travail. D'autres qui ont essayé aussi avec des monnaies alternatives. Il y a également, par exemple, aussi des associations de mutuelles, par exemple, qui s'efforcent de financer, des banques, par exemple, qui s'efforcent de financer, qui sont basées sur des mutuelles et qui financent des expériences communautaires diverses à des taux extrêmement concurrentiels. Et ensuite, l'argent qui, quand il est remboursé, ça permet de créer et d'aider d'autres nouvelles expériences. Il y a vraiment des gens qui travaillent dans des milieux extrêmement divers. Je connais par exemple quelqu'un qui travaille aussi dans un journal là, de Greenwich Village et qui écrit de temps en temps aussi des articles sur le mouvement anarchiste ou sur des idées libertaires, etc. Il y a vraiment une variété très très grande, mais une diversité qui nous étonne un peu parce qu'il y a vraiment des choses les plus diverses. Par exemple, il y a aussi des gens qui sont des clowns et qui viennent participent aux manifestations lorsqu'il y a lieu, des groupes musicaux également qui font la même chose. Il y a par exemple aussi des gens qui se spécialisent comme observateurs dans les manifestations. Lorsqu'il y a la police charge les gens et que les gens sont arrêtés, ils sont appelés comme témoins. Alors ils arrivent en visant ils portent une casquette verte, n'est-ce pas, qui permet de les reconnaître. D'autres qui travaillent aussi dans le secourisme. Je veux dire, il y a vraiment des choses, des expériences extrêmement diverses. Alors il y a évidemment ces milieux libres dont je parle, qui sont des expériences de communautés libertaires très variées.
On peut donner peut-être un exemple d'une expérience.
Oui, alors je vais donner deux exemples tout à fait différents. L'un, c'est une communauté qui existe encore aujourd'hui, qui s'appelle Twin Oaks, qui est en pleine campagne. Il doit y avoir, c'est une communauté qui doit avoir à peu près 50 ans d'existence, qui doit grouper à peu près 150 personnes. Les gens qui étaient dedans ne sont pas toujours ceux qui étaient d'origine, mais enfin, il y a quand même aussi des gens d'origine là-dedans, donc il y a plusieurs générations qui sont là. Alors, c'est une communauté qui dispose de pas mal d'hectares de terrain, dans lequel une partie du terrain, ils s'occupent à le boiser, une autre partie du terrain leur sert pour eux-mêmes, pour s'autosuffire autant que possible. Ils vivent en fabriquant des hamacs et du tofu, et une autre partie du terrain est consacrée à augmenter la diversité biologique. Donc ils essayent de réintroduire des espèces qui appartenaient à la région et qui ont disparu, de manière à enrichir. Alors évidemment, bon, ce sont des communautés qui sont des grands efforts écologiques aussi, avec évidemment des tas de points de vue alternatifs. Par exemple, bon, il n'y a pas d'auto individuel, mais il y a des autos qui servent à la communauté. On essaye de. Alors bon, au point de vue régime alimentaire, chacun est libre de pratiquer le régime. Il y a quand même beaucoup de végétariens. Il y a aussi quelques végétaliens, c'est-à-dire les gens qui refusent de manger des œufs et tous les produits animaux, et ainsi de suite. Donc voilà, ça c'est un exemple de communauté. Alors un exemple totalement différent, c'est une communauté urbaine d'une douzaine de personnes qui est dans une ville. Ils ont acheté une vieille ferme abandonnée. Ils réparent des bicyclettes gratuitement, demandent aux gens ensuite d'essayer de donner un coup de main aussi pour réparer les bicyclettes. C'est une communauté punk. Elle a aussi, je crois, une quinzaine d'années d'existence, ou un peu plus, je ne sais plus. Et les gens doivent donner, je crois, 110 heures de travail par mois, je crois, à peu près, pour la communauté. Parce que, bon, il faut entretenir la maison, il faut donner donc le coup de main pour les bicyclettes, etc. Mais sinon, eux-mêmes vont en ville et participent à différentes choses, activités sociales. Il y en a qui ont participé à une radio alternative, à des journaux alternatifs. Actuellement, plusieurs d'entre eux travaillent à essayer d'améliorer les habitats de gens qui sont dans des conditions très modestes. D'autres travaillent dans les mouvements sociaux. Il y en a un, je crois qu'il n'y est plus à maintenant, mais qui a lancé le fameux serveur qui existe toujours sur Internet et qui s'appelle Rise Up, que peut-être ceux d'entre vous qui connaissent l'Internet connaissent, et où il y a pas mal aussi d'informations alternatives. Voilà donc deux exemples totalement différents de communautés.
Comment s'appelle-t-elle, celle-ci?
Celle-là, elle s'appelle Emma Goldman School, je veux dire ça, le nom exact. Emma Goldman Finishing School, c'est-à-dire école terminale. Ben, il n'y a pas d'enfants dans la communauté, d'ailleurs, c'est assez amusant. C'est pas, ce sont tous des adultes. Voilà, bon, ça c'est deux exemples de communauté, mais je peux citer aussi encore un autre exemple totalement différent. C'est une communauté de lesbiennes, uniquement donc de femmes, qui se sont établies aussi en milieu rural, et qui essayent de vivre de manière totalement... Bon, elles ont été fondées en 1975, ce qui fait quand même, donc aussi, elles ont à peu près 35 ans d'existence. Donc ce ne sont pas des communautés éphémères qui ne durent que 3 jours, n'est-ce pas? Et une chose aussi que je veux ajouter, parce que je suis sûr qu'il y aurait des questions là-dessus, ce ne sont pas des communautés repliées sur elles-mêmes. Parce que moi, pour moi, la communauté qui est nombriliste n'est pas une communauté utopique. Alors ce sont des communautés égalitaires et anarchistes, dans le sens qu'il n'y a pas d'autorité, il n'y a pas de décideur, il n'y a pas de chef. Alors il y a des processus de décision très complexes.
Quelle est la place de la pensée fédéraliste, comme on peut la connaître en Europe, depuis très longtemps, depuis le développement de l'anarchisme organisé. Quelle est sa place aux États-Unis, que ce soit à travers le syndicalisme ou les organisations politiques?
Elle n'est pas très importante, je n'ai pas vu beaucoup de choses là-dessus. Il y a des écrits régulièrement dans la presse, évidemment, sur les idées fédérales. Bon, mais il faut dire que les États-Unis sont déjà un pays fédéral, n'est-ce pas? Je crois que lorsque Bakounine a parlé de fédération, c'est parce qu'il venait des États-Unis. C'est-à-dire, il est d'origine de Russie, évidemment, mais quand il s'est échappé de sa prison, il est passé par les États-Unis, il a été emballé par ce qu'il a vu aux États-Unis. D'ailleurs, il avait fait une demande pour devenir américain. Et puis, il a été aussi emballé par la Suisse. Et donc, c'est cette idée-là qu'il avait eue. Alors, ce qu'il faut voir, c'est qu'aux États-Unis, il y a déjà, dans une certaine mesure, une sorte d'esprit fédéral, puisque chaque État est totalement différent. Le système scolaire est différent, les lois sont différentes, etc. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'État central prend de plus en plus d'importance. Donc, le problème fédéraliste ne se pose pas de la même manière. Ils sont beaucoup plus à lutter contre l'existence de l'État que sur le problème de la fédération.
Je pensais par fédération la définition anarchiste, à savoir de fédération de producteurs, tel qu'on pouvait le concevoir à travers les expériences syndicales, etc. Enfin, notamment, les IWW avait mis en perspective cette démarche-là, quoi.
Oui, mais alors, ils emploient plutôt des termes comme coopérative et mutuelle. Il y a des banques mutuelles, il y a des coopératives mutuelles. Il y en a eu beaucoup, et il y en a encore aujourd'hui, d'ailleurs, aussi, qui sont encore autogérées. Et qui, même des entreprises qui sont ainsi autogérées dans le nord des États-Unis, je ne les connais pas bien, mais je sais que ça existe aussi, sous des formes très diverses, alors avec des problèmes intéressants, parce que par exemple, il y a des gens qui ne veulent absolument pas prendre le pouvoir, et puis comme c'est chacun à tour de rôle qui doit mener les discussions, etc., il y a des gens qui ont peur et qui se posent des problèmes. Donc c'est très intéressant, parce qu'ils ils affrontent le problème de manière très concrète. Les Américains posent toujours le problème dans la pratique, beaucoup plus que dans les théories. Ceux qui se lancent dans les théories, en général, les pratiquent très peu, hélas.
Est-ce qu'on peut dire un mot sur l'héritage du pédagogue et du fondateur de l'école moderne, Francisco Ferrer?
Oui, alors, oui, je crois que c'est une place importante qu'il a eue, parce que, bon, c'est une communauté j'ai rencontré d'ailleurs des gens qui ont appartenu à cette communauté, à cette école Ferrer aux États-Unis. Lorsque Ferrer a été exécuté par l'État espagnol, les anarchistes américains ont décidé qu'il n'était pas question de simplement faire des commémorations avec des grands discours, mais qu'il fallait mettre en pratique ses idées. Donc ils ont essayé de créer une école Ferrer. Alors, l'école Ferrer a touché sur... Alors ça, c'est dans, nous sommes au début du XXe siècle. Elle était d'abord à New York, et elle touchait surtout des enfants d'immigrants juifs qui étaient là. Et c'est une école qui a été extrêmement moderne sur énormément d'aspects. Et ensuite, elle a été obligée d'aller à Stellton dans le New Jersey, et avec elle, alors il y a eu donc des familles qui sont venues s'installer aussi. Il y a eu quelques problèmes parce qu'il y a eu énormément d'enseignants qui ne sont pas restés très longtemps dans l'école, mais qui ont employé quand même des méthodes très très ouvertes au point de vue pédagogique. Par exemple, les enfants n'étaient pas obligés d'aller à l'école. Ils étaient pris en charge par la communauté. Et quand on regarde les résultats, on est assez étonné de voir que ces enfants-là ont parfaitement bien réussi plus tard. Bon, il y a eu de tout. Il y a eu évidemment des gens qui sont devenus hommes d'affaires et d'autres qui, au contraire, ont été des militants. D'autres étaient hommes d'affaires et militants aussi, donnant de l'argent pour soutenir le mouvement et des choses de ce genre-là. Ce mouvement a été d'ailleurs extrêmement généreux au point de vue financier, a donné beaucoup, beaucoup d'argent lorsqu'il y a eu l'affaire Sacco et Vanzetti, par exemple, et a essayé aussi de soutenir beaucoup les mouvements européens pendant très longtemps. D'ailleurs, cela continue encore aujourd'hui. Par exemple, bon, le mouvement anarchiste italien est encore financé par des gens qui ont participé au mouvement Ferrer de ces époques-là, ou à la guerre d'Espagne, et qui sont aux États-Unis ou ailleurs, et qui ont fait des legs et des choses comme ça. Donc, c'est un mouvement qui a été assez extraordinaire. Par exemple, bon, ils ont eu quelques grands peintres qui sont venus, qui faisaient des écoles qui enseignaient donc les beaux-arts. Et alors, évidemment, bon, ils ont fait des choses qui, par exemple, à l'époque, apparaissaient comme totalement incroyables, parce que bon, on ne voyait pas de femmes nues aux beaux-arts, n'est-ce pas? Alors que là, il y avait des femmes nues. Et donc, il y a eu donc ces écoles de peinture dans lesquelles il y a eu même Trotsky qui est venu suivre des cours quand il est passé par là. Et ils ont ouvert également, ils se sont ouverts au théâtre, au problème du corps, du naturisme et un certain nombre d'autres thèmes. Et alors, c'est là que je voudrais dire quand même une chose aussi, c'est que les anarchistes apparaissent aussi comme des gens un peu idéalistes et complètement à côté de la plaque. Mais ce que je voudrais dire, c'est que les anarchistes du 19e siècle qui disaient aux États-Unis, par exemple, et en France aussi, que la femme est l'égale de l'homme, à cette époque-là, on disait, c'est contre nature, c'est contre Dieu, c'est contre la Bible, c'est pas possible, ça ne peut pas se faire, ça ne se fera jamais, c'est physiologique, ça ne peut pas changer. Et ben, ces idées que les anarchistes ont développées à l'époque, aujourd'hui, quand même, elles sont acceptées. Les anarchistes du 19e siècle aux États-Unis se sont fait arrêter très souvent parce qu'ils diffusaient les méthodes de contrôle des naissances, par exemple de contraception. Eh bien, aujourd'hui, ce sont des idées qui sont acceptées. Ils ont posé des problèmes comme la libération du corps, le naturisme, et ils se sont fait aussi houspiller à cause de cela. Eh bien, aujourd'hui aussi, il y a des camps naturistes qui existent, qui sont même devenus très conservateurs par ailleurs. Donc, je veux dire par là que beaucoup des idées libertaires, et je pense aussi à un autre exemple, c'est justement l'idée de fonctionner sans chef. Eh bien, je crois qu'aujourd'hui, dans le mouvement altermondialiste en général, il y a une très grande méfiance d'être manipulé, et la plupart de ces mouvements-là essayent de prendre des décisions, autant qu'ils le peuvent, sans être manipulés par les groupements politiques et en essayant de prendre des décisions, si possible, autant que possible, par consensus. Donc je crois que sur beaucoup d'aspects, beaucoup d'idées libertaires, qui étaient considérées comme irréalisables et utopiques, ont très bien fonctionné. Alors l'idée anarchiste qui ne fonctionne toujours pas encore, c'est cette idée qu'il ne faut pas d'État, mais on peut le dire aussi d'une manière positive, c'est-à-dire qu'on veut créer le plus d'associations possibles qui soient basées sur le volontariat des gens, à tous les niveaux, local, plus global, pourquoi pas international. Et je pense que c'est cette idée-là qui me semble très importante, qu'il faut diffuser aujourd'hui.